tontos.
Chaque vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Bienvenue dans l'émission Check Me Load, l'émission qui chaque semaine fait la part belle à la nouveauté métal. Et aujourd'hui, eh bien, plein de nouveautés à vous proposer pour cette émission. Cette journée du 22 mars est très très riche en événements. Il y a plein de nouveautés, mais il y a aussi également quelque chose que les amateurs de métal attendaient avec impatience, quelque chose qui vient d'arriver sur une célèbre plateforme de streaming, et ça on en parle dans quelques minutes. Sinon, pour ce qui est du reste de l'émission, eh bien on aura pas mal de styles différents aujourd'hui, puisque ça ira du folk metal au metal industriel, en passant par du black blues metal. Qu'est-ce qu'on aura encore? On aura du hard rock, tout simplement. On aura du heavy metal, bien sûr. Donc vous voyez, ce sera une émission assez variée. Je pense que je vais pas avoir le temps de diffuser tous les morceaux que j'ai prévus aujourd'hui, parce qu'il y en a quand même une sacrée liste, mais ça fait rien, on poursuivra la semaine prochaine, puisque je crois que le vendredi prochain ce sera un petit peu moins riche en sortie. Mais revenons à ce grand événement que j'évoquais à l'instant, ce vendredi 22 mars. Alors outre le fait que ce soit l'anniversaire de mon chien, aujourd'hui c'est un grand jour pour les fans de Motley Crew et de heavy metal en général, puisque ça y est, le biopic consacré à Tommy Lee et sa bande, à Motley Crew, est enfin disponible sur Netflix. Et pour célébrer ça comme il se doit, hein, c'est quand même aussi un grand jour pour eux. C'est pas tous les jours qu'on a un biopic sur son groupe qui sort. Alors ça sort pas au cinéma certes comme celui de Queen, mais quand même Netflix, c'est quand même regardé par énormément de monde, donc c'est pas un simple téléfilm. Et bien le groupe a décidé pour célébrer ça de sortir également aujourd'hui une compilation qui s'appelle comme le film, j'ai oublié de le signaler, mais le film il s'intitule The Dirt. Et donc sur cette compilation qui fait également un peu office de bande originale de film, on retrouve bien évidemment tous les titres qui ont fait les grands jours de Motley Crue. On retrouve aussi 4 morceaux inédits. Alors avant de vous en dire un petit peu plus sur tout ça, sur le film et puis sur cette compile, je voulais quand même qu'on fasse un petit point, un petit retour sur la carrière de nos légendes du glam metal. Alors l'histoire elle commence à Los Angeles en 1981. Le groupe va se créer autour de deux personnages au départ. Ça va être le bassiste Nikki Sixx et puis le batteur Tommy Lee. Et très vite ils vont être rejoints par un guitariste, Mick Mars, et puis par un chanteur qui s'appelle Vince Neil. Alors Motley Crue, c'est un groupe qui va être aussi célèbre pour sa musique que pour les frasques de ses membres, hein, qui sont connus, alors que ce soit pour leurs démêlés judiciaires, pour leurs sévères addictions, qui ont bien failli coûter la vie à Nikki Sixx, hein, d'ailleurs, pour aussi leurs innombrables aventures avec la gente féminine. Je rappelle que Tommy Lee a beaucoup fait parler de lui dans la presse à scandale à une époque. Alors il y a eu l'époque où il était marié à l'actrice Heather Locklear. Bon, là ça allait à peu près. Alors ça a un petit peu dégénéré quand il était marié avec Pamela Anderson. Tous les deux, ils formaient, on peut dire, un couple absolument infernal. Donc c'est un peu tout ça aussi, la vie de Motley Crue, qu'on retrouve dans ce biopic qui sort aujourd'hui. Donc, le groupe fait ses débuts dans les clubs de Los Angeles. Alors là, ils vont se former déjà une sacrée réputation. Et quelques mois seulement après leur formation, ils vont sortir un premier album qui s'appelle Too Fast for Love, qui va se vendre quand même à 20 000 exemplaires. Donc c'est pas mal, hein, pour un premier album. Et voilà, ça va être le début d'une décennie 80 qui seront synonymes de gloire pour le groupe. C'est Motley Crue, ça va être un véritable ambassadeur du mouvement glam metal. Ils vont marquer les esprits par leur excentricité, mais surtout par des albums qui sont devenus cultes, hein. Je pourrais vous citer Shout at the Devil, qui est sorti en 83, Girls, Girls, Girls en 87, et bien entendu Dr. Feelgood, qui est sorti en 89, qui est son plus gros succès commercial et certainement la pièce maîtresse de sa discographie. Alors après, il y aura les années 90 qui vont être beaucoup moins brillantes, comme tous les groupes de hard rock et de heavy, j'ai envie de vous dire. Et puis, il y aura un certain regain de popularité dans les années 2000, comme beaucoup de groupes de hard rock et de heavy également. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut savoir raccrocher les gants. Et Motley Crue va nous annoncer en 2015 qu'après une ultime tournée internationale, il va mettre un terme à sa carrière. Alors maintenant, qui sait si la sortie de ce biopic va pas donner envie à nos turbulents musiciens de reprendre les instruments. Ma foi, tout est envisageable, hein. Il y a bien Scorpion qui fait une tournée d'adieu depuis maintenant 8 ans, donc pourquoi pas un retour de Motley Crue. Mais bon, ça, ce sera à voir. En attendant, on va pouvoir aller regarder ce fameux film, The Dirt. Alors ça, c'est loin d'être un projet récent, hein, puisqu'on l'annonce quand même depuis 2003. Et on en avait réentendu parler, je crois, en 2011. Mais il aura fallu attendre 2018 pour que le biopic entre enfin en production. C'est une production qui s'est faite sous la direction de Jeff Tremaine. Alors, à son palmarès, il a la série des films Jackass, hein, voilà. Pour ce qui est du casting, alors là, c'est pas mal du tout. Moi, je trouve que c'est assez crédible. Puisque on retrouve Ewan Ryan qui joue Ramsay Snow dans Game of Thrones, lui il incarne le guitariste Mick Mars. On retrouve Daniel Weber, connu en tant que The Punisher, qui incarne lui le chanteur Vince Neil. L'acteur britannique Douglas Booth a obtenu le rôle du bassiste Nikki Sixx. Quant à Tommy Lee, eh bien il est interprété par un rappeur qui s'appelle Machine Gun Kelly. Voilà, alors c'est tout ce que je vais vous dire à propos du film, parce que pour l'instant je n'ai vu que le trailer, hein. J'ai pas eu le temps de le regarder ce matin, parce qu'en général Netflix met ses productions sur le coup de 9h du matin, donc voilà, j'étais déjà à la radio et j'ai pas eu l'occasion de le regarder. En tout cas, j'ai hâte d'être à ce soir pour le découvrir. Par contre, je peux vous dire quelques mots sur la compile qui l'accompagne. Alors, on y trouve 19 titres, donc beaucoup évidemment de classiques du répertoire de Motley Crue, mais aussi les fameux 4 titres inédits qui ont été enregistrés tout spécialement pour l'occasion. Et parmi eux, une très surprenante reprise de Like a Virgin de Madonna, qu'on écoutera en fin d'émission dans la rubrique Sortez Cover. Et puis on retrouve aussi un morceau réalisé en featuring avec l'acteur-rappeur qui incarne Tommy Lee, qui s'appelle Machine Gun Kelly. Et c'est ce morceau-là que je vous propose de découvrir tout de suite. Voici donc Motley Crue avec un titre inédit, un extrait de la compile The Dirt, et donc une chanson qui s'appelle The Dirt 8 1981. Yeah.
taking big tips, showing up the nice big tits. Ha!
Motley Crue pour se mettre en forme avec un extrait de The Dirt, un inédit qui est chanté en featuring avec Machine Gun Kelly, qui, je le rappelle, incarne dans le film le batteur Tommy Lee. Le film, il s'appelle également The Dirt, il est dispo depuis aujourd'hui sur la plateforme Netflix, donc tous ceux qui ont la chance d'être abonnés, vous pouvez aller le voir dès la fin de l'émission. Pour les autres, n'hésitez pas à gratter un code à un pote le temps au moins de voir ça, et peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine, je vous dirai ce que j'en ai pensé, vous pourrez me dire aussi si vous voulez, vous pouvez passer par la page Facebook de l'émission qui s'appelle Check Melode, ou sur la page de Back FM. J'aimerais bien avoir vos retours. Voilà, on en réécoutera un extrait tout à l'heure de Motley Crue avec la reprise Like a Virgin, qui est donc sur le même disque, sur la même bande originale de ce biopic qu'est The Dirt. On va continuer dans un style hard rock. Alors là, on était dans du hard rock qu'on appelle aussi glam rock, qu'on appelle aussi sleaze rock, qu'on appelle air metal. Là, on va aller sur du hard rock beaucoup plus basique, avec un jeune groupe qui a une dizaine d'années de carrière. C'est un groupe qui s'appelle The Treatment et qui sort aujourd'hui un nouvel album qui s'appelle Power Crazy. Alors The Treatment, c'est un groupe anglais qui nous vient de Cambridge, qui s'est formé en 2008. C'est un groupe qui évolue sous forme de quintet et qui compte encore actuellement en ses rangs trois de ses membres fondateurs. Alors on a le guitariste Tagor Gray, le bassiste Rick Newman et puis le batteur Danny Mansworth. On peut noter que depuis ses débuts, The Treatment a vu défiler quand même trois chanteurs, hein, et c'est actuellement Tom Rampton qui est arrivé en 2017 qui tient le micro. Alors je sais pas, ils vont peut-être faire à peu près un chanteur par album, on verra, il y a des groupes comme ça, ça peut arriver. En tout cas, pour ce qui est du style de The Treatment, c'est, je le disais, du hard rock, mais The Treatment revendique des influences aussi variées que AC/DC bien sûr, Judas Priest, mais aussi Sex Pistols, Electric Light Orchestra dans un autre genre, ou encore Dr. Feelgood, donc, dont ils sont de très grands fans. Alors, pour résumer, on peut dire que, le combo perpétue à travers sa musique la grande tradition des groupes de hard rock made in England, sans oublier d'y injecter une bonne dose de punk et puis de classic rock aussi. Et ce résultat pour le moins décapant, on l'avait découvert avec un premier album qui s'appelait This Might Hurt, c'était en 2011, un album qui avait reçu d'excellentes critiques. D'ailleurs, les deux années suivantes, le groupe aura un planning bien rempli puisqu'il va se produire aux quatre coins de la planète. Ils vont assurer notamment la première partie des 50 shows de la fameuse tournée Kiss Motley Crue. Voilà, on en revient toujours à Motley Crue, qui s'était déroulé aux États-Unis durant l'été 2012. Et puis, en 2014, c'était venu le temps du deuxième album avec Running With The Dogs, qui va recevoir encore une fois un accueil largement positif, mais qui sera aussi synonyme d'un futur changement, puisque The Treatment, va voir son chanteur et membre fondateur Matt Jones quitter l'aventure. Il sera remplacé par Mitchell Hems, qu'on va découvrir sur Generation Me en 2016, un troisième album qui va d'ailleurs confirmer tout le potentiel et tout le talent de nos Britanniques. Mais bon, visiblement ça l'a pas fait avec Ems, puisque sur Power Crazy on découvre un autre chanteur, Tom Rampton, qui d'ailleurs avec sa voix rappeuse n'est pas sans rappeler un certain Bon Scott. C'est quelqu'un qui s'est parfaitement monté haut sur l'attaque de guitare du duo de choc que forment Tao et Tagore Ray, donc je pense qu'ils ont fait quand même un très bon choix. Et puis sinon, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ce quatrième album, The Treatment coupe assez magistralement puissance sonore, goût prononcé pour les riffs infectieux. C'est un disque qui est direct, qui révèle instantanément les ingrédients essentiels d'un bon hard rock, un hard rock authentique et classique, c'est-à-dire tout simplement des riffs bien acérés, des refrains imparables, et puis des chansons qui vont droit au but, comme celle-ci par exemple qu'on va écouter, qui s'appelle Hang Them High. Voici tout de suite The Treatment dans Check Me Load. Treatment à l'instant avec un extrait du nouvel album Power Crazy qui débarque aujourd'hui. C'est le quatrième album du groupe de Cambridge. On vient d'écouter le titre Hang Them High, un album qui dépote. C'est direct, c'est énergique, c'est un peu comme si le groupe avait enregistré en live. Donc justement, ça promet de très très beaux concerts dans les mois à venir. Voilà pour The Treatment sur Back FM 106.1 dans votre émission métal Check Me Load. Passons maintenant à la mauvaise note de la semaine, un album que j'attendais avec assez d'impatience et qui m'a pas mal déçu. C'est le nouvel album de Battle Beast qui débarque aujourd'hui, qui s'appelle No More Hollywood Endings. Et je pense que Battle Beast, à trop vouloir en faire, c'est un peu brûler les ailes, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Mais auparavant, retour sur les origines du groupe. Alors, qui sont-ils ? Eh bien, c'est un groupe qui nous vient de Helsinki en Finlande. Tout comme le groupe qu'on vient d'écouter avant, The Treatment, ils ont vu le jour en 2008. Et c'est un groupe qui a été créé autour de trois potes d'école, donc deux guitaristes, D'un côté Anton Cabanon et de l'autre Yusso Soino, et puis un batteur qui s'appelle Piri Vicky. Assez vite, ils vont être rejoints par une jeune chanteuse qui s'appelle Nite Valo, dont l'organe vocal a pour particularité de se rapprocher plus d'un Rob Halford que d'une Tarja Turunen, hein, pour vous faire un peu court mais efficace. Un line-up qui a depuis énormément évolué, avec tout d'abord le remplacement 2012 de cette fameuse chanteuse Nite Valo par Noura Louimo, qui possède une tessiture vocale et un charisme assez proche d'ailleurs. Et puis avec le départ en 2015 du guitariste et principal compositeur Anton Cabanon, qui était plus très en phase avec la direction musicale prise par le groupe et qui a décidé d'aller fonder sa propre formation qui s'appelle Beast in Black. On en a parlé il y a quelques semaines avec leur nouvel album d'ailleurs, qui est assez excellent. Alors Battle Beast, c'est quoi ? C'est du heavy metal à la sauce 80s. Battle Beast puise en effet clairement ses influences dans le hard rock et puis le heavy de cette fabuleuse décennie chez des groupes comme Dio, Dokken, Judas Priest, Iron Maiden, Accept et j'en passe. Mais il faut aussi noter que notre combo n'hésite plus depuis quelques albums, et c'est de plus en plus vrai, à flirter avec des sonorités très très propres, pop, qui rappelleraient presque ABBA. Et oui, ABBA revient souvent chez les groupes scandinaves de métal actuels. Je sais pas pourquoi, et je sais pas quelle a été cette influence absolument énorme qu'a eu le groupe sur tout le monde, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, puisqu'on parle disque, il faut savoir que Battle Beast avait sorti en 2011 un premier album qui s'appelait Steel, avec lequel il va remporter quelques mois plus tard un fameux tremplin qui est organisé par le festival Woken, et ce tremplin va lui offrir non seulement une visibilité beaucoup plus large, mais aussi va déboucher sur une sortie à échelle internationale en 2012, ainsi que sur une tournée avec Nightwish, donc c'est plutôt pas mal pour un début. En 2013, Battle Beast, qui a depuis recruté donc la chanteuse Noura Louimo, va sortir un deuxième album qui s'appelle Battle Beast, tout simplement. Alors, il y a un artwork très peu séduisant, mais malgré tout, c'est un album qui va faire sensation chez les amateurs de heavy metal revival, et qui sera suivi en 2015 de Unholy Savior, à travers lequel les Finlandais vont nous plonger cette fois dans un univers très dark fantasy qui s'inspire d'un manga célèbre qui s'appelle Berserk. Il va s'agir du dernier album avec le guitariste Anton Cabanon, puisqu'il s'en va très peu de temps après, et après ce coup de tonnerre qui va provoquer quand même de vives inquiétudes chez les fans, eh bien Battle Beast va faire un retour remarqué en 2017 et va rassurer tout le monde avec Bringer of Pain, un album qui est beaucoup plus varié en termes de sonorité, qui va recevoir un accueil largement positif, qui va devenir aussi le plus gros succès commercial du combo, qui va donc à ce moment-là s'ouvrir une véritable autoroute vers la gloire. Et pourtant, eh bien l'arrivée aujourd'hui de No More Heroes and Digs pourrait bien faire redescendre un petit peu tout le monde d'un cran, puisque à trop vouloir manier la pop et le heavy metal, à trop vouloir mélanger Madonna et Dokken, je pense que Battle Beast a peut-être franchi un cap un peu trop important, et surtout sans maîtriser les résultats et les aboutissants. Du coup, alors, il y a quand même quelques belles compos hein, dans ce No More Hollywood Endings, mais n'empêche que ça reste un album qui est souvent pompeux, où la chanteuse en fait des tonnes, où les musiciens nous en étalent des tartines jusqu'à l'écœurement. Donc moi je trouve que c'est assez décevant de la part de Battle Beast, qui sera le grand perdant du combat qu'il oppose désormais avec Beast in Black, le groupe de Cabanon, dont le nouvel album, lui, s'écoute vraiment avec un plaisir coupable. Donc bah tant pis pour eux, on espère qu'ils vont se relever, qu'ils vont faire mieux la prochaine fois. Voici tout de même un extrait de No More Hollywood Ending, avec un des morceaux les meilleurs de l'album, et c'est justement le morceau No More Hollywood Ending. Voici Battle Beast. Battle Beast à l'instant sur Back FM dans l'émission Check Me Load. Le titre que vous venez d'entendre, c'est No More Hollywood Ending. C'est extrait de l'album du même nom qui arrive aujourd'hui, qui est la petite déception de cette semaine puisque on s'attendait à beaucoup mieux. L'album précédent était très réussi, Battle Beast. Pourtant, c'était pas gagné avec le départ de Cabanon. Et bah là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Là, ils ont voulu aller trop loin, en mettre trop. Et ben voilà, ils ont franchi un cap qui est pas forcément le bon. Donc on espère qu'ils vont vite se rendre compte et qu'ils vont revenir vraiment à ce qu'ils savent faire le mieux sur l'album prochain. Mais vous pouvez quand même aller jeter une oreille, hein. C'est pas un album ratage complet non plus. C'est la petite déception de la semaine, c'est la mauvaise note de la semaine. Et la bonne note de la semaine, ça va être pour un groupe qui nous vient de Suisse, qui s'appelle Cellar Darling, et qui sort aujourd'hui également un nouvel album. C'est leur deuxième, un album qui s'appelle The Spale. Alors Cellar Darling, c'est un groupe qui nous vient de deux villes de Suisse, de Winterthur et de Lucerne, qui a été fondé en 2016. Et c'est en fait un trio qui a été créé par trois ex-membres du groupe de folk metal Eluveissi, suite encore une fois à des divergences d'opinions et puis aussi à quelques conflits d'intérêts. Donc, Cellar Darling se compose de la chanteuse Anna Murphy, du batteur Merlin Sutter et du guitariste Ivo Enzi. C'est pour le style un mélange de folk metal et de rock progressif. C'est-à-dire qu'on retrouve bien sûr un petit peu d'Eluveissi, mais dans une autre vision, dans une évolution de ce qu'aurait pu faire le groupe. Donc c'est bien parce que ça nous propose autre chose. Alors il faut savoir que dans le groupe, en plus des traditionnels guitare, basse, batterie, on trouve aussi des instruments pour le coup dits traditionnels, comme par exemple la vielle à roue, l'Ulian pipe, la flûte ou encore le violon. Sinon, que vous dire d'autre? Sinon que le groupe qui a été fondé en juin sortait dès le mois de septembre suivant un premier single, qui ensuite ils ont donné dès le mois de décembre 2016, donc 6 mois après leur formation, leur premier show, et c'était en première partie d'Amorphis et de The Gentle Storm, le projet qui réunit Anneke van Gerbersgen et Ariane Lucassen, j'ai encore écorché son nom. Et enfin, dès 2017, ils annonçaient leur signature avec le label Nuclear Blast, sur lequel est sorti en juin 2017, donc un an après leur formation, leur premier album qui s'appelait This is the Sound, à travers lequel Cellar Darling nous proposait sa vision de l'esthétique folk metal, en renouvelant un petit peu le genre grâce à l'intégration de sonorités progressives, symphoniques, qui vont donner à sa musique cette petite touche de modernité. Avec The Spell, le nouvel album qui paraît aujourd'hui, Cellar Darling continue dans cette même lignée, mais quand même avec un brin d'audace et de maîtrise en plus. Ça se traduit notamment par des influences rock progressives qui sont de plus en plus affirmées. Et puis autre point important, pour son deuxième album, Cellar Darling a choisi de se frotter à l'exercice du concept album et nous propose en fait un conte de fées à la fois moderne et sombre dans lequel on suit les péripéties d'une jeune protagoniste qui naît dans un monde totalement détruit par l'homme, et sa quête, ce sera de rechercher la signification de l'existence. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle va finir par tomber amoureuse de la mort. Je ne vous dis que ça c'est le pitch. Maintenant, il faut aller écouter tout ça parce que The Spell, c'est une histoire qui est totalement immersive, et le groupe nous raconte ça à travers son folk rock progressif lourd mais complexe. On est bercé par la voix enchanteresse d'Anna Murphy, dont la prestation est plutôt remarquable. Avec The Spell, on peut dire que Cellar Darling confirme largement son potentiel, et avec eux, on peut dire aussi qu'il y a un vent nouveau qui souffle sur le monde du folk metal. C'est une sacrée bonne nouvelle. Voici un extrait de ce nouvel album avec le morceau Death. On va pas l'écouter en entier parce qu'il dure plus de 7 minutes et qu'on a beaucoup de choses à écouter, mais on va en écouter quand même une bonne partie. Cellar Darling tout de suite sur Back FM. Le monde enchanteur de Cellar Darling avec le morceau Death, extrait du nouvel album du groupe qui paraît aujourd'hui, concept album qui s'appelle The Spell. Ah, j'arrive pas aujourd'hui, j'ai des difficultés d'expression, c'est ouf. Donc The Spell, c'est ça le nom de l'album qui nous raconte une espèce de conte de fées à la fois fantastique, sombre et moderne. C'est à découvrir. Là, on n'a pas pu écouter le morceau en entier puisque, comme je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, le morceau il fait 7 minutes et quelques. Et si on veut écouter d'autres groupes, et ben malheureusement, il a fallu le raboter un petit peu. On va rester dans la musique plutôt singulière. Après le folk metal de Cellar Darling, on va passer à du black blues metal. Je vais vous expliquer. On va parler d'un live, qui est signé de Zeal and Ardor et qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Live in London. Alors, qu'est-ce que c'est que Zeal and Ardor ? Je vous en avais déjà un petit peu parlé l'année dernière au moment du Hellfest, puisque le groupe y était passé. Donc c'est un projet qui est né entre Bâle en Suisse, justement on y reste en Suisse, on y était déjà avec Cellar Darling, et puis New York, un projet qui naît en 2013 à New York plus précisément, dans l'esprit d'un musicien américano-suisse qui s'appelle Manuel Gagneux. Alors au départ ça va être un one man band, et en 2017 il va voir arriver plusieurs musiciens à ses côtés. Il va y avoir Denis Wagner et Marc Obrist au chœur, Tiziano Volante à la guitare, Mia Raffaella Dieu à la guitare basse, et puis Marco von Holmen à la batterie. Alors qu'est-ce que c'est que Zeal and Ardor ? Telle est la question. C'est de l'avant-garde métal qui mélange du black metal, du blues et du gospel avant-gardiste. Donc vous allez me dire, mais pourquoi une telle fusion ? Alors là, c'est là que ça se complique. Je vais essayer de vous expliquer clairement. C'est clair dans mon esprit, mais à vous réexpliquer, ça va pas être si simple que ça. En fait, Manuel Gagneux, qui est à l'origine du projet, il a fondé son concept en s'inspirant d'une approche alternative de l'histoire qui résulte directement de l'association entre deux pensées. D'une part, on a la religion chrétienne qui a été imposée par les Américains aux esclaves noirs africains, tout comme ça avait été déjà fait en Norvège des siècles auparavant. Et puis d'autre part, on a le black metal norvégien, pour le coup, qui dans les années 90 s'est répandu un petit peu partout à travers le monde comme une sorte de symbole de rébellion face au monothéisme. Du coup, Manuel Gagneux, il s'est demandé qu'est-ce qui se serait passé si des esclaves noirs américains s'étaient rebellés de la même façon, quel aurait été le son de leur chant spirituel s'ils avaient été sataniques, et à quoi aurait ressemblé le black metal s'il était né dans les champs de coton des États-Unis du Sud. Et bien probablement à cet univers qu'il a créé avec ses musiciens, avec ce projet qu'est Zeal and Ardor, c'est-à-dire ce black metal blues gospel avant-gardiste. Donc ce qui s'est passé niveau discographie, c'est qu'il avait déjà sorti une démo éponyme en 2014. En 2016, il y a eu un premier album qui s'intitulait Devil is Find, un album qui va susciter un très large intérêt de la part des médias. Et puis, en 2018, le groupe qui va faire un passage remarqué au printemps de Bourges va sortir quelques semaines plus tard, début juin, un deuxième album qui s'appelle Stranger Fruit, qui va susciter un engouement encore plus important de la part des médias, mais aussi du public, qui va être très nombreux à découvrir l'étonnant projet sur la scène des festivals les plus prestigieux cet été, puisqu'il y a eu le Hellfest, je le disais, mais ils sont également passés au Download, au Wacken, au Festival de Montreux, donc vous voyez, pas des petits festoches quoi. Et ben du coup aujourd'hui c'est justement en live qu'on redécouvre nos alchimistes du black metal blues, puisqu'ils nous présentent ce Live in London, un double album qui a été, comme son nom l'indique, enregistré à l'occasion de leur passage dans la capitale britannique. C'était en décembre dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un album qui est composé de 22 titres, il y a également 4 chansons inédites. Quant au reste, c'est une setlist qui a été élaborée à partir des deux albums principaux du groupe, qui je rappelle ont été tous les deux acclamés par la critique, de Rolling Stone Magazine à Rock Hard, en passant par Kerrang ou Metal Hammer quand même. Donc voici tout de suite un extrait de Live in London du groupe Zeal and Ardor, et je vous propose de découvrir le morceau We Never Fall. I say Lord, oh Lord, Lord, don't come by here. I say, Lord, oh Lord, oh Lord, don't come by here. 'Cause we've been awake for 7 days. There ain't no God that's gonna help us anyway. Oh, I say, Lord, oh Lord, oh Lord, don't come by here. Oh, I say, Lord, oh Lord. We'll
left him, come with us, sinners, we never fall.
Zeal and Ardor sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. C'était en live, un extrait de Live in London qui paraît aujourd'hui. Vous venez d'écouter le titre We Never Fall de cet étonnant projet Zeal and Ardor. Aussi étonnant que fascinant, que si vous ne les avez pas encore découverts, allez voir des vidéos, allez écouter leurs albums. C'est vraiment très très bien. Fallait penser quand même à réunir tous ces univers et ils le font vraiment à merveille. Zeal and Ardor, je rappelle que leur album studio, le dernier en date, c'est Stranger Fruit. Il est tout récent puisqu'il est sorti en juin dernier. On va changer de registre maintenant, on va aller dans un monde beaucoup plus indus avec un groupe que j'ai eu le plaisir d'avoir en interview l'année dernière pour un EP et un groupe qui fait beaucoup parler de lui, qui va faire parler de lui dans les mois à venir, soyez-en sûrs, il s'agit de Chargot c'est la seule nouveauté qui ne soit pas de ce jour puisqu'elle date du 8 février mais malheureusement j'avais encore pas l'album donc là que je l'ai en main j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, leur nouvel album qui s'appelle Vol 2 The Advent of Shadows, alors Vol pour volume 2, Les aventures des Shadows. Alors Chargot, c'est un groupe qui nous vient de Paris, qui existe depuis 2011. On peut même dire que c'est plus qu'un simple groupe, puisque c'est carrément un concept qui est né dans le cerveau torturé d'Étienne, chanteur de la formation, qui a également imaginé et créé tout un univers qui gravite donc autour d'un personnage, qui s'appelle le Chargot, qui est une espèce de créature maléfique qui évolue dans un monde post-apocalyptique et qui résulte en fait d'expériences scientifiques ratées. Donc vous voyez, c'est déjà toute une histoire. Pour ce qui est du style, on est dans un mélange de métal industriel et d'électro-punk. Quand on écoute Chargot, impossible de pas penser à Punish Yourself, hein, avec qui le groupe a joué à de nombreuses reprises. Impossible de ne pas penser aussi aux premiers opus de Marilyn Manson, ou encore à Ministry, Rob Zombie. Et d'ailleurs, pour en revenir à Punish Yourself, il faut savoir que les musiciens de Chargot ont pour habitude, donc tout comme les Toulousains, de monter sur scène recouverts de peinture. Pour ce qui est de sa discographie, maintenant on peut considérer que chacune de leurs pièces et un petit peu comme un nouveau chapitre à l'histoire imaginée par Étienne, mais ça peut aussi être envisagé comme une nouvelle mutation de sa créature, et c'est donc une épopée discographique qui a débuté avec un EP qui s'appelait Mad Party, qui est sorti en 2013, qui avait été suivi d'un premier album, Chargot Volume 1 en 2016, et puis d'un deuxième EP intitulé Break Your Body en 2017, pour lequel donc on avait eu un des membres du groupe en interview. Et ben voilà, maintenant il était grand temps d'enfin sortir le deuxième album. C'est celui qui nous intéresse aujourd'hui et qui, je le rappelle, s'appelle Vol 2 The Advent of Shadows. Alors c'est un nouvel opus qui nous plonge dès les premières notes dans l'univers apocalyptique, torturé et malsain de Chargot, dont finalement l'EP Break Your Body était qu'un petit avant-goût du chaos qui allait s'abattre dans nos conduits auditifs avec ce deuxième album qui est vraiment une énorme claque. La musique du groupe, elle est puissante, elle est riche, elle est variée. On sent à chaque instant le travail aussi méticuleux qu'acharné des Parisiens qu'ont laissé absolument aucun des taille de côté, de sa production impeccable à son artwork, là encore une fois des plus soignés. Vol 2 The Advent of Shadows, c'est un album d'une cohérence implacable, c'est un album qui fait souffler un vent de renouveau au sein de la scène metal indus, dont Chargot est sans conteste la nouvelle sensation, hein. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que la créature infernale va être programmée au prochain Hellfest. Tout de suite, on écoute Chargot avec le titre Wake Up, debout là-dedans, on se réveille. Wake up! chargote à l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load avec un extrait du nouvel album Volume 2 The Advance of Shadows. Vous venez d'écouter le titre Wake Up. Chargote, un groupe à découvrir en CD mais surtout à voir sur scène. Ils font des prestations live absolument gigantesques. C'est un véritable show, hein, c'est plus qu'un concert. Bon, je vous disais, hein, ils montent sur scène recouverts de peinture, ils sont déguisés, enfin costumés. Et puis sur scène, il y a un espèce de souffre-douleur qui se balade, qui se prend des coups. Enfin, c'est tout un concept, c'est à voir. Et je pense qu'une soirée avec sur la même affiche Chargotte et puis Punish Yourself, ça doit être pas mal du tout, hein. Ça doit être vraiment le truc à voir. On va rester dans ce style indus, mais dans sa vision allemande maintenant, avec le groupe Stallman qui sort aujourd'hui un nouvel album qui s'appelle Kinder Den... Je vais prendre mon plus bel accent allemand et vous écorcher allègrement le titre. Kinder, donc jusque là ça va. Der Sehnsucht. On va dire ça comme ça. Donc nouvel album du groupe, d'un groupe qui nous vient de Göttingen, qui s'est formé en 2008 autour du chanteur Mart Sauer et du guitariste Alexander Scharfe, qui a quitté le groupe lui en 2012. Donc je vous le disais, c'est du metal indus, mais rattaché au mouvement qu'on appelle la New Dutch Harte, dont les figures de proue ben, sont tout simplement Rammstein en premier lieu, et puis Oomph aussi, qui en sont presque les créateurs. C'est un style musical qui est né, comme vous l'aurez compris, en Allemagne, et qui se caractérise ben, par son mélange de grosses guitares bien métal, de son électro et puis de rythmique très martial, le tout sous un, dans un univers très froid, très glacial. En 2009, Stallman sortait son premier EP qui s'appelait Herzschlatz. Je vais souffrir pendant cette chronique parce que en fait, il y a que des noms en allemand et je ne parle pas un mot d'allemand. Donc ce premier EP, il va atteindre le top 20 en Allemagne. Il va permettre au groupe de faire pas mal de dates. C'est donc déjà fort d'une très belle réputation scénique que le combo va sortir l'année suivante, un premier album éponyme. Donc là, ça va, je suis un peu soulagée. Et donc, à ce jour, bah, ça a pas mal marché pour le groupe, puisqu'ils ont 6 albums studio au compteur, et ils sont devenus une des formations phares de cette scène New Dutch Harte. Alors en Allemagne, ces albums ont tous rencontré un assez large succès. À l'international, la popularité du groupe, elle est un petit peu plus confidentielle, du moins concernant le large public, puisque bah, il faut savoir que le monopole de cette scène elle est détenue de très très loin par le mastodonte Rammstein, hein, et ça c'est encore vrai aujourd'hui. Et puisque Rammstein on finit pas de nous faire languir en attendant son nouvel album, eh bien on va se rabattre nous sur Stallman et sur son Kinder Den Sehnsucht, ce nouvel opus qui sans révolutionner le genre bah, fait tout à fait le job, hein, puisque Mart Sauer et sa bande nous balancent des compos qui sont assez glaciales, qui sont écrasantes, malsaines, qui sont aussi très très cadentes, autant cadencé qu'un défilé du 14 juillet. En somme, c'est la bonne vieille recette pour nous faire être bangé. On écoute Stallman avec un morceau en allemand que je vais essayer de vous prononcer le mieux possible. War Ert Oder Pflicht.
Dort vom Himmel hoch komm ich her. Es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Was ist geschehen in all den Jahren? Sag, was sind die Trümmer deiner Seele, die dein kleines Dasein hat? Sag, wie viele Wunden mussten bluten? Und sag die Wahrheit, deine Lebenszeit läuft ab. Dort vom Himmel hoch komm ich her. Es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Weder Schatten oder Licht. Weder Wahrheit, Wahrheit oder Pflicht. Dort vom Himmel hoch komm ich her. Es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Weder Schatten oder Licht. Wahrheit oder Pflicht. Ja, sei mir willkommen in deinen Tränen.
Dort vom Himmel hoch komm ich her. Es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Weder Schatten oder Licht, weder Wahrheit, Wahrheit oder Pflicht. Dort vom Himmel hoch komm ich her. Es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Weder Schatten oder Licht, Wahrheit oder Pflicht. Dort vom Himmel hoch komm ich her. Es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Weder Schatten oder Licht, weder Wahrheit, Wahrheit oder Pflicht. Dort vom Himmel hoch komm ich her. Es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Weder Schatten oder Licht.
Stallman à l'instant sur Back FM dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Warert Oder Pflicht, extrait du nouvel album du groupe qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Kinder der Sehnsucht. Et je sais pas pourquoi dans cette scène Metal Indus, c'est particulièrement la scène allemande, on aime beaucoup faire compter des petits enfants dans les chansons, ça donne un petit côté malsain au truc, mais je pense que bien fâché, on peut trouver un exemple par groupe de cette scène, et ça c'est assez drôle en fait. Déjà chez Oomph, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal. Je sais plus chez Rammstein, mais peut-être bien que si également, ce serait peut-être une étude à approfondir. Voilà, ceci étant dit, je vous propose de refermer ce chapitre nouveauté pour passer à la rubrique finale, à la rubrique sortez cover. Et l'événement de ce 22 mars, je le rappelle, c'est la sortie sur Netflix de The Dirt, le biopic qui retrace l'épopée du groupe Mötley Crüe, qui pour l'occasion donc sort également aujourd'hui une compilation qui fait également office de bande originale pour le film, et sur laquelle le combo nous propose une version hard rock d'un des tubes de Madonna, la chanson Like a Virgin, qu'on va donc découvrir aujourd'hui. Alors, quelques mots hein, sur Like a Virgin que vous connaissez forcément tous. Elle est sortie le 6 novembre 1984 précisément en 45 tours, soit à peu près une semaine avant l'album du même nom, qui sera l'unique disque de Madonna à être certifié disque de diamant pour ce deuxième album Like a Virgin. D'ailleurs, si la Madonna avait déjà connu un succès relativement important avec des titres comme Holiday par exemple, c'est le single Like a Virgin qui sera son premier véritable hit international. Alors il faut dire que Like a Virgin possède absolument tous les ingrédients qui font un tube. Ces compositeurs, d'abord, ils sont très connus. Enfin, ils n'étaient pas encore à cette époque, mais après, ils vont travailler avec de grands noms. Ce sont Tom Kelly et Billy Steinberg. Ensuite, ils vont faire d'autres très très gros succès. Hein. Quant au producteur de la chanson, eh bien, il s'agit de Nile Rodgers, qui est déjà connu à cette époque pour être un des maîtres du disco-funk avec son groupe Chic. Alors, Like a Virgin, c'est une chanson qui est joyeuse, qui est entraînante, mais c'en est pas moins une chanson provocatrice aux paroles aussi ambigu qu'ironique, qui a fait scandale aux USA hein, où des groupes familiaux ont cherché à la censurer en prétextant qu'elle promouvait la débauche de sexe hors mariage. Rendez-vous compte. Et puis d'un autre côté, Like a Virgin, elle a aussi largement contribué à faire de Madonna cette icône un peu indomptable, effrontée et qui jouit d'une extrême confiance en elle, que la jeunesse de ce début des années 80 va se mettre à aduler jusqu'à imiter son style vestimentaire. Voilà, c'est un peu comme ça que la légende Madonna va commencer à naître. Alors bien évidemment, comme c'est le lot de tout tube, Like a Virgin va être reprise par de nombreux artistes, il serait vraiment trop long de vous en faire la liste. Et puis sinon, elle apparaît également dans pas mal de films. Alors on l'entend dans Reservoir Dogs, dans Moulin Rouge, dans Bridget Jones, L'âge de raison. Et puis on a pu aussi l'entendre dans des séries comme par exemple Grey's Anatomy. Elle a été reprise par le casting de la série Glee, voilà, pour vous donner deux petits exemples. Mais nous, bah, bien sûr, hein, c'est l'étonnante version glam metal de Mötley Crüe hein, qui nous intéresse, qu'on va écouter dans quelques instants, qui a été enregistrée spécialement pour la sortie du film Et puis donc de la compile The Dirt. Le morceau, il a d'ailleurs été révélé il y a tout pile une semaine, c'était le vendredi 15 mars que le groupe l'a publié sur internet. Voici donc Like a Virgin, revu et corrigé par Motley Crue. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. Profitez du week-end pour regarder The Dirt. Salut à tous!